Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, une revue d'actualité sur SSL TLS. Et pour discuter de ce sujet, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Hervé Schauer.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Vladimir Collat.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Hulloa. Alors, il semble que l'actualité SSL-TLS, ça soit l'arrêt du support de SHA-1. Nicolas, est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, enfin, le support de SHA-1, il est déjà... On sait déjà qu'il va être arrêté depuis longtemps, donc il y avait déjà un plan de deprecation, je sais pas comment ça se traduit en français, d'abandon de SHA-1 pour le 1er janvier 2017 chez les fabricants de browsers qui n'accepteront plus de certificat SSL... Le certificat signé par SHA-1. Donc ce plan était déjà en place, et là il y a eu une actualité récente sur le fait que les attaques se sont améliorées sur SHA-1, et donc à partir de là, maintenant la date est avancée au 1er juillet 2016. Donc quand tu vois les statistiques, là, sur il y a 20% des sites dans le Alexa top 1 million qui utilisent SHA-1 pour leur certificat, du coup ça veut dire qu'il faudra un petit peu... accélérer la transition pour obtenir les délais.
Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les gens pourront plus se connecter à des sites qui utilisent ce type de certificat ?
Non, parce qu'en fait, le plan de transition, il est assez smooth. D'abord, il faut faire la différence entre la couleur du cadenas, qui va progressivement passer du vert au neutre et ensuite qui va être barré en rouge. Et peut-être à terme, là, il y aura carrément une page interstitielle qui dira « Attention, ce site utilise un algorithme dangereux. » Donc ça va se faire très progressivement. Et ensuite, la politique est un peu plus compliquée que ça. Parce que, alors ça dépend des navigateurs. Hein. Il y a Chrome, Firefox et Internet Explorer, ou Edge. Dans Chrome, il va y avoir... Enfin, le plan de transition a été annoncé et ça va être assez doux, quoi. Et donc dans Chrome, il y a une dépendance par rapport à la date d'expiration du certificat. C'est-à-dire que si ton certificat utilise SHA-1 mais expire en 2015 ou 2016, enfin 2015 c'est déjà passé, mais s'il expire en 2016, ça posera pas de problème. Par contre, s'il expire au-delà de 2017, tu auras des avertissements, tu auras une couleur plus rouge que celle que tu as si tu expires en 2016.
Ça aura un petit impact visuel sur l'utilisateur, mais au final, je sais pas si vraiment les utilisateurs feront attention à ça. Tant qu'on n'aura pas un blocage total avec la page qui t'alerte en te disant « Attention, ce site est dangereux », je suis pas sûr que les utilisateurs voient vraiment
non,
la différence.
Attends, c'est pas parce que le site il est encore avec SHA-1 qu'il est dangereux.
Bah, pour le moment, il n'est pas dangereux. Mais souviens-toi, il y a même pas 2-3 ans au CCC, où avait été présentée cette collision sur MD5, c'était une révolution. Enfin, ils avaient vraiment forgé un certificat wildcard à partir d'une collision MD5 sur un vrai provider.
Ouais, alors que là, si tu regardes bien, les travaux, c'est les travaux qui ont été réalisés sur un Kraken, c'est-à-dire c'est un énorme ordinateur qui permet de réaliser une collision sur du SHA-1 avec des cartes graphiques, de nombreuses cartes graphiques ultra puissantes. Les coûts estimés, je crois que sur de l'Amazon EC2, c'est aux alentours de 100 000 $ pour pouvoir réaliser une collision SHA-1. Donc c'est pas encore accessible au tout venant.
Non mais attends, il n'y a pas de collision sur le full SHA-1 aujourd'hui. Il y a des travaux, je crois que je sais plus quelle est la barrière à laquelle on est tombé, c'est peut-être 2 puissance 69 ou quelque chose comme ça. Et encore, il y a une différence entre avoir une collision arbitraire, c'est-à-dire pouvoir dire tiens, je prends des données, enfin d'après image, je prends ces données, je sais qu'elles vont donner tel SHA-1, et le fait d'avoir une collision avec un certificat existant. Enfin, c'est oui. Des problèmes un peu différents. Aujourd'hui, je suis pas capable d'estimer quelle est la complexité d'une attaque, mais globalement, je pense pas encore qu'il soit possible de faire un faux certificat qui a la même empreinte SHA-1 qu'un certificat authentique. Ça coûterait certainement plus de 100 000 $, et je crois que Adi Shamir avait fait des estimations à ce sujet sur le coût de fabrication d'ASIC et autres, mais ça s'appliquait à la crypto-symétrique. Je sais pas s'il a fait la même chose sur les algorithmes de hash.
Et tu as Bruce Schneier qui avait fait des prédictions justement sur les collisions et les travaux sur SHA-1 et qui avait été surpris de voir que les estimations de coûts étaient réduites par rapport à ce qu'il avait estimé. C'est-à-dire que lui estimait que on arriverait à cet ordre de coût dans je sais pas plusieurs années alors qu'en fait on y est quasiment aujourd'hui.
Ok, donc imaginons que j'ai un site en HTTPS. Je dis imaginons parce que par exemple à Nos Limites Sécu on n'a pas ce problème.
Pas encore.
Pas encore. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour m'assurer que mon certificat est OK?
Tu dois juste régénérer ton certificat en demandant à l'autorité de certification d'utiliser comme empreinte pour la signature au moins SHA-256.
D'accord, donc c'est plus un problème en fait de l'autorité de certification qui va me générer le certificat. Parce que moi, en fait, j'envoie ma CSR et...
Oui, c'est l'autorité de certification qui doit te délivrer des certificats. Mais normalement, toutes les autorités sérieuses qui sont reconnues dans les browsers délivrent des certificats compatibles. Après, le problème peut se poser si tu as des sous-autorités ou des choses comme ça. Mais bon, globalement, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est capable de délivrer un certificat qui utilise SHA-256. Par contre, l'effet de bord là-dedans, c'est qu'il me semble que les systèmes comme Windows XP ne supportent pas SHA-256. Enfin, je dis Windows XP, mais je veux dire tout ce qui est client legacy dans le Nival ne supporte pas le SHA-256 comme un grind de hache.
Oui, donc là, comme disait Vlad, là, ça va s'arrêter. Le jour où tu mets un vrai certificat, enfin un certificat qui utilise SHA-256, c'est que tu as un operating system qui est trop ancien, là, tu peux plus te connecter au site web.
Oui, clairement, parce que l'OS n'est pas capable de vérifier la signature puisqu'il n'a pas l'algorithme SHA-256. Donc, il dit, moi, je connais pas ce certificat. Et après, c'est cancel ou allo. Hein. Après, tu peux toujours y aller, mais bon.
Mais est-ce que le problème n'est pas plus important pour les tunnels de VPN privés qui utilisent aussi les mêmes algorithmes que pour les sites web?
Bon, pas forcément, parce que la plupart des tunnels supportent quand même beaucoup d'algo, dont SHA-256, 512, donc je suis pas sûr que le problème arrive à ce niveau-là. J'ai l'impression que ce sera plus problématique pour tous les équipements qui ont été installés un jour et qui ont été laissés dans un coin sans jamais être mis à jour, qui eux supportent pas forcément des algorithmes plus récents, plus modernes, et qui là effectivement risquent d'avoir un problème. Et encore, je suis même pas sûr, parce que si ni l'équipement ni celui qui interroge l'équipement comment tu disais toi, deprecated, ne supporte plus SHA-1, dans ce cas-là, enfin, si aucun des deux n'arrête pas le support de SHA-1, je pense qu'il n'y a aucun problème.
Ah non, moi je pense que le problème est le contraire. C'est-à-dire que les têtes de pont de VPN qui sont absolument jamais mises à jour, qui ont été installées un jour et qui fonctionnent bien, eh ben, elles restent avec des algorithmes historiques, puis point.
Oui, c'est ça, oui. Ça continuera à marcher avec SHA-1, et puis voilà.
Ah oui, mais ça va être potentiellement compromissible.
Oui. Bah, qu'est-ce que tu veux? Après, les gens sont responsables.
Hein. Du moment que le VPN n'utilise pas Dual EC comme générateur d'alias, ça devrait être bon. Mais je crois qu'il faut... Enfin, dans l'informatique, on n'enlève rien. Tout s'empile. Et donc, effectivement, il y aura plein de gens qui ne suivront pas. Maintenant, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. La déprécation de SHA-1, c'est pas un truc pour les utilisateurs. Enfin, le but de ces petits cadenas qui changent de couleur et autres, c'est pas de faire peur aux utilisateurs. Le but, c'est de faire réagir les fournisseurs pour leur faire réaliser que leur site s'affiche plus pareil et que maintenant il y a des alertes, etc. Et c'est du côté serveur, du côté fournisseur que les mises à jour devront être faites. Le gars qui arrive en 2017 et qui a effectivement son site qui peut plus être accédé parce qu'il y a un interstitiel qui montre une page d'alerte, c'est soit un gars qui vit au Moyen-Âge, soit un gars qui maintient plus son site à jour, quoi. Normalement, c'est pas censé arriver. Les gens qui ont vraiment du client, du public, vont faire la mise à jour. Et après, il y aura toute une longue tail, effectivement, de clients entreprises, d'OS Legacy et autres qui, eux, continueront à vivront dans le passé, quoi. Mais tout ça n'a pas de... C'est pas censé... Les utilisateurs sont pas censés contacter les webmasters en disant « Oh là là, mon petit cadenas, il a changé de couleur, qu'est-ce que vous faites ?» Ou en tout cas, si on en est là, c'est que les webmasters font vraiment mal leur travail. D'ailleurs, j'aime bien dans les guides de sécurisation où ils disent, quand vous vous connectez sur le site de votre banque ou quoi que ce soit, vérifiez bien que le petit cadenas ressemble à l'une de ces icônes. Et puis les icônes, c'est celle de Netscape 4.7. Enfin bon. Plus personne n'est capable de valider que les icônes sont bien la bonne forme.
Ouais, on sort un peu du sujet là, mais...
Oui, alors, justement, on va revenir au sujet qu'on souhaitait traiter, à savoir le deuxième sujet qui est l'expiration, ou la révocation plutôt, d'un certificat VeriSign.
Ah, même d'une autorité de certification
VeriSign. D'une autorité plutôt, d'une autorité de certification. Nico, est-ce que tu peux nous en dire plus?
Donc VeriSign, qui est quand même un des plus gros fournisseurs de certificats dans le monde. J'ai pas les parts de marché, mais enfin globalement on en voit beaucoup. Et alors pour le coup, ils font pas que du SSL TLS, hein, ils font aussi de la signature de code. Enfin, tu vois, ils signent des drivers. Tu peux les utiliser pour signer des macro office, enfin pour avoir du mail, du SMIME et tout ça. Et donc VeriSign a été racheté par Symantec. Il y a eu pas mal de fusions-acquisitions dans le domaine des CA. Je suis sûr qu'Hervé a tout l'historique de ce qui s'est passé. Mais globalement, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de CA vraiment commerciales. Et donc, VeriSign a une énorme part de marché. Et le certificat VeriSign Class 3 Public Primary Certificate Authority G1, aussi appelé PCA3-G1, n'a pas vraiment expiré. Enfin, il est RSA 1024, donc de toute façon, il n'est plus tout à fait au standard du jour. Mais là, Symantec a carrément annoncé qu'ils allaient l'utiliser à des fins de test pour aider leurs clients à migrer, etc. Et que donc, ils n'allaient plus être compatibles avec la déclaration de pratique de certification qu'ils avaient fait initialement. Donc, à partir de là, la plupart des gens sérieux, donc Google par exemple, mais d'autres, ont dit que ce certificat allait être évoqué. Enfin, cette autorité de certification qui existe depuis 15 ans et qui a signé des milliards de choses sur Internet allait être évoquée et ne serait plus considérée comme valide.
Oui, d'ailleurs, j'ai peut-être un historique, mais j'ai pas vérifié si elle était véritablement VeriSign à l'origine ou issue du rachat de Tote ou d'autres choses, hein, cette autorité.
Donc là, c'est vraiment un exercice grandeur nature de révocation de CA. Et il y a eu le cas de DigiNotar, mais DigiNotar finalement était très utilisé en Hollande. Je crois qu'ils avaient signé les cartes professionnelles de taxi, des trucs comme ça. Mais on va dire que ça restait à l'échelle de la Hollande. Alors que là, c'est un certificat qui a potentiellement signé beaucoup de choses qui seront jamais mises à jour. Donc là, on vit notre premier exercice de révocation à large échelle d'autorité de certification.
Alors qu'est-ce que ça implique pour les entreprises et pour les particuliers, par exemple?
Pour les entreprises, ça implique rien. Pour les particuliers qui utilisent Chrome et les autres, je ne sais pas quelle est la position des autres browsers là-dessus. Pour les particuliers qui utilisent Chrome, ça veut dire qu'ils vont commencer à avoir des alertes dans leur navigateur. Si les webmasters ne font pas l'effort de renouveler leur certificat. Et pour les entreprises, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Hein. Elles peuvent continuer à utiliser ce certificat, même si ils n'adhèrent plus à aucune pratique de sécurité. Enfin,
oui, parce que tant que tu restes dans ton écosystème, c'est-à-dire que tu n'es pas lié à un navigateur qui a révoqué l'AC, tu peux toujours continuer à utiliser cet AC, les certificats qui ont été signés par cet AC.
Et est-ce que ça a un peu impliqué des problématiques de man in the middle, comme on l'a vu par exemple avec Superfish?
Je crois que la vraie question, c'est de savoir ce que Symantec veut dire par réaliser des tests et l'utiliser comme autorité de migration pour leurs clients. En fait, je sais pas quelle est leur stratégie derrière. S'ils commencent à délivrer des certificats wildcard à tout et n'importe qui, effectivement, ça peut poser des problèmes. Parce qu'on sait que beaucoup d'entreprises dont les clés privées ne sont pas stockées dans des HSM ou autres, donc au bout d'un moment, il y a qu'à voir tous les malwares qui tournent dans la nature aujourd'hui, ils ont été signés à droite à gauche, l'un par un fabricant par le certificat d'un fabricant de cartes réseau, l'autre par une autorité de certification de Birmanie ou je sais plus quel pays d'Asie du Sud-Est. Enfin, toutes les clés privées sont destinées à liquer à un moment ou à un autre à partir du moment où elles ne sont pas protégées correctement. Donc là, ça va être un peu le mystère, quoi.
Tu penses que c'est lié à l'histoire justement des certificats générés par Symantec et révoqués par Google qui servaient à signer des vrais faux certificats pour des sites de Google et pour faire de l'interception?
J'en sais rien, honnêtement. J'en sais rien. Après... De toute façon, c'est une autorité qui utilise RSA 1024, donc elle peut pas survivre longtemps. Ne serait-ce que sur les standards du RGS ou de du NIST, elle va périmer d'ici quelques années, quoi qu'il arrive. Ouais. C'est juste que cette annonce a un peu pris tout le monde de court, puisqu'ils ont dit, oui, on sait que RSA 1024 a une date d'expiration qui est, je sais plus, quelque part entre maintenant et 2020, mais dès maintenant, on va commencer à faire n'importe quoi avec cette autorité. Et donc ça a un peu pris tout le monde de court, quoi.
Mais d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est quand tu regardes en fait certains équipements, je vais pas citer quels équipements, mais tu vois en fait des autorités de certification qui sont supportées dedans, et tu vois pas mal d'autorités de certification qui datent des années 90 et qui sont valides. Là, j'en ai une devant les yeux, autorité de certification datant de 1996 qui périme en 2028. Et t'en as pas mal des comme ça, d'équipements qui ont une vieille collection de d'autorités de certification valable 30 ans avec des clés de 1024 bits. Et ça me paraît assez limite.
Bah, sauf que dans les années 90, quand SSL 2.0 a été lancé par Netscape, tout le monde s'est rué sur le marché en disant faut qu'on soit les premiers, etc. Et personne n'a fait du... Il y a eu aucune vision à long terme sur comment on allait faire pour faire tourner les clés, comment on allait faire pour évoquer une CA, qu'est-ce qui se passait en cas de fusion-acquisition. Et ça, c'est venu après. Mais effectivement, tous les gens qui étaient là dans les années 90, ils ont été les premiers sur le marché et ils ont tout inventé, quoi.
Ouais, puis c'est encore très jeune tout ça, ça a quelques années. On en reparlera dans 100 ans, dans 200 ans.
Alors là, on va continuer à parler d'SSL puisqu'on va parler de Let's Encrypt. Donc Let's Encrypt, qu'est-ce que c'est, Nico?
Alors Let's Encrypt, c'est une petite révolution. C'est le dernier clou dans le cercueil du business de la certification, puisque en fait, c'est un système qui permet à tout le monde d'avoir du SSL gratuitement sur son site web. Donc plus besoin d'acheter de certificats, de passer par des revendeurs et autres. C'est un projet de la Linux Foundation qui se présente sous la forme d'un module Apache. Enfin, en gros, c'est du code quoi qui est sur GitHub et qui permet en fait de prouver qu'on est le propriétaire d'un domaine, d'un site web. Enfin, il faut contrôler le DNS plus le web en fait pour avoir droit à ça. Et si on contrôle les deux, en fait, on peut prouver automatiquement qu'on possède ce domaine et on peut se faire générer automatiquement des certificats valides par l'autorité de Let's Encrypt.
Et c'est génial, ça.
Et c'est automatisé.
C'est absolument génial. Il y a quelques petits défauts, en particulier le fait qu'ils utilisent SHA-256, donc effectivement, ça ne marche pas avec les clients XP et autres. Mais sinon, c'est...
Mais je comprends pas, c'est quoi le modèle économique?
Il n'y a pas de modèle économique. L'idée, c'est de sécuriser la planète et de simplifier pour que n'importe quel utilisateur, administrateur de site, puisse le faire. C'est pour ça que tu as toute une collection de scripts et outils où ça te gère automatiquement le renouvellement du certificat, ça te gère automatiquement la révocation, donc c'est simple.
Et si je veux pas justement faire tourner de scripts, etc., si je veux juste... installer un certificat, envoyer une demande de certificat, est-ce que je peux obtenir un certificat valide?
Ouais, tu vas sur le site de VeriSign et tu payes 1 500 € ton certificat.
Non, tu peux le faire avec Let's Encrypt aussi. C'est très bien documenté sur leur page, hein, letsencrypt.org, how it works. Et donc, tu as des CSR, du format PKCS10, etc. Et tu as juste l'étape initiale d'enrôlement qui est automatisée, où tu prouves que tu possèdes le domaine avec un mécanisme de challenge response qui utilise à la fois le DNS et le web. Et après, une fois que tu as prouvé que tu possèdes le domaine, tu t'envoies des CSR, mais en fait, ils ont une API publique, quoi. Donc, tu envoies la CSR avec le résultat du challenge response de l'étape 1 et pour prouver que c'est bien toi, et ils te signent ta clé et après, tu l'utilises offline. Donc, en fait, il n'y a pas de... Enfin, aujourd'hui, officiellement sur le site, c'est un truc qui s'appelle le Internet Security Research Group et qui est une fondation au sens de la loi 501(c)(3) aux États-Unis. Donc, c'est non-profit. Après, est-ce qu'il y a un business model derrière? J'en sais rien, mais eux, ça leur coûte presque rien, quoi. Enfin, ça leur coûte juste de maintenir une API qui va faire une requête à chaque fois que tu as besoin de signer une CSR.
Oui, mais après, ça tient à quoi? Qu'est-ce qui fait que il va pas y avoir d'abus au niveau de cet AC et qu'elle va pas finir par se faire révoquer comme celle de Symantec, par exemple?
Ah bah, et après, l'AC racine qui signe tout, d'après mon browser, c'est DST root CAX3. Je sais pas, je les connais pas, je sais pas qui est derrière exactement. Mais je suppose qu'il y a un contrat commercial avec eux et que... Enfin, je vous dis... À partir du moment où ils adhèrent à la politique de certification qu'ils ont déclarée pour être dans les autorités, dans les racines de confiance des browsers, il n'y a aucune raison qu'ils soient révoqués. Je veux dire, Komodo n'a pas été révoqué parce que il a délivré des certificats à 2-3 sites un peu véreux qui avaient des typos par rapport à des sites officiels et qui faisaient du typo squatting. Après, si effectivement Let's Encrypt perd sa clé privée de sous-autorité parce qu'elle n'est pas stockée dans un HSM ou quoi, là effectivement ils seront révoqués comme n'importe qui, je pense. Mais bon, comme s'il y a une API en ligne, je veux dire, c'est pas très très grave, puisque en théorie, une fois que tu as installé le module dans ton serveur Apache, tout se fait automatiquement, quoi. Donc au pire, s'il y a un truc qui ne marche pas, on peut imaginer qu'au bout de 24 heures, ton site, il est à nouveau up.
Et ces modules, ils servent juste à renouveler, à faire une demande pour renouveler ton certificat quand il va expirer?
Bah, pour obtenir le certificat, pour le révoquer ou pour le renouveler.
Ce qui fait que tu te trouveras plus dans des situations où ton site est inaccessible avec une grosse alerte, comme c'est déjà arrivé sur plein de grosses entreprises ces dernières années. Voilà.
D'un autre côté, tu as un module en plus dans ma page qui tourne, etc. Donc, moi, je préférerais quand même juste avoir un reminder, je sais pas, tous les ans, par exemple, et renouveler mon certificat et pas avoir de module à page qui tourne.
Oui, mais en fait, pour le moment, il faut voir que c'est encore du bêta. Et en fait, l'API qu'ils utilisent, enfin, le protocole qu'ils utilisent s'appelle ACME, enfin, Automated Certificate Management Environment. Et en fait, ils l'ont soumis en draft IETF. Donc, en fait, à terme, il y aura une RFC avec un protocole qui t'expliquera comment aller chercher des certificats chez Let's Encrypt. Et on peut imaginer que d'autres personnes qu'il y ait d'autres providers après qui le fassent. Et que tout le monde ne soit pas signé par la sous-autorité Let's Encrypt. Je suis d'accord que le business model est pas évident, mais bon, au bout d'un moment, finalement, le certificat, ça rapporte rien, quoi.
Bah, c'est ce qu'avait dit VeriSign, je crois, quand ils ont revendu à Symantec, c'était justement qu'il y avait plus de business à faire dans les autorités de certification, et je crois que c'était il y a 2 ans, non?
Non, mais ça a toujours été un business complètement délirant et pas du tout rentable. Il y a eu des fantasmes sur la vente de certificats, c'était vraiment des caricatures. Enfin, moi, je vois en France les modèles économiques qu'on a eus des boîtes qui sont lancées là-dedans.
Enfin, quand tu vois le prix des certificats Extended Validation, le business model, il est quand même sympathique, là. Hein. Plusieurs milliers d'euros juste pour avoir une petite barre verte dans Internet Explorer. Alors que ton certificat, il n'y a pas de travail en plus, c'est juste une pseudo-vérification supplémentaire, mais voilà.
Mais c'est fini, ça.
Bah oui.
Et est-ce que les gens auront la petite barre verte quand ils utiliseront le certificat Let's Encrypt?
Bah, ça dépend de si l'autorité racine est reconnue dans ton browser ou pas. Mais non. Enfin,
ce ne sera pas Extended Validation, c'est-à-dire que tu n'auras pas le fameux fond vert, c'est-à-dire encore plus validé qu'une autorité de certification classique, enfin plutôt qu'un certificat classique.
Alors ça, c'est intéressant, Vlad. Alors justement, quelle est la différence entre le vert et le très vert?
Non, mais en fait, le certificat classique, c'est tu as une vérification technique éventuellement de l'entreprise et le fait que tu possèdes vraiment le domaine. Alors que Extended Validation, c'est théoriquement une vérification beaucoup plus poussée. On demande ton CABIS, on vérifie que tu es vraiment l'entreprise possédant le nom de domaine, etc. C'est pas une vérification uniquement technique. Ça, c'est en théorie, hein.
Mais là, il y a un peu un revival du business du certificat, parce que entre le RGS, enfin, je veux dire, si tu veux un certificat RGS 3 étoiles, ça doit quand même coûter des sous. Hein. J'ai pas une idée du prix, mais vu les contraintes qu'il y a derrière. Et en plus, au niveau européen, ils commencent à parler d'identification unique dans toute l'Europe avec EIDAS et donc dématérialisation et autres. Donc là aussi, ça va. Enfin, je suppose que si tu veux un certificat reconnu, enfin qui te serve à faire de l'authentification dans toute l'Europe, de l'identification dans toute l'Europe, ça viendra pas gratuitement, quoi. Mais disons sur le web, qui a un modèle essentiellement gratuit aujourd'hui. C'est vrai que payer pour des certificats, il y a plein de gens qui préfèrent utiliser un certificat autosigné ou il y avait, comment ça s'appelle, CACERT qui livrait déjà des certificats gratuitement. Simplement, le problème, c'est qu'ils n'étaient pas dans les bases de confiance des navigateurs. Mais si tu rajoutes toi-même CACERT.org dans ta base de confiance, après, tu as plein de gens qui ont des certificats signés par cette autorité, dont les gens du CCC à une époque, il me semble, qui utilisaient CACERT.
Ah, tu as aussi Start SSL.
Certificat, si tu dois être, si t'es obligé de rajouter la C, enfin, ça peut pas vivre comme ça. C'est.
Bah, pas auprès du grand public, mais enfin bon, c'est comme les gens qui veulent faire des racines DNS ouvertes, tu sais. Hein, si tu dois changer ton serveur DNS et pas utiliser celui de ton fournisseur, ça va toucher un millionième de la population. Quoi. Mm. Mais CACERT était quand même relativement utilisé.
On a fait le tour de la question?
Bon, juste un tout petit point assez rigolo de dire que comme aujourd'hui la plupart des ordinateurs, en tout cas personnels, sont avec des CPU 64 bits et non plus 32 bits, SHA-256, je sais pas trop si ça va vraiment durer, parce que finalement SHA-512, c'est presque plus rapide à calculer que du SHA-256 sur des CPU 64 bits.
Ouais, mais après le problème aussi se pose pour les autres algorithmes qui ont été moins étudiés, quoi. Si t'as une autorité qui te signe en RIPE MD-160 par exemple, est-ce que c'est un truc solide ou pas? Non.
De toute façon, et tu as SHA-3 là, Ketchak, je sais jamais le prononcer, qui a été publié par le NIST là récemment.
Oui, mais alors là, pour le coup, je pense que t'as aucun OS qui le supporte. Hein. Je ne sais pas s'il est dispo dans OpenSSL. J'ai quand même vérifié ton histoire de collision SHA-1. Effectivement, il y a des gens qui, partant des estimations de Schneier et autres, disent qu'aujourd'hui, tu peux forger une collision pour 2 millions de dollars environ. Parce qu'effectivement, le coût du calcul unitaire serait estimé autour de 50K aujourd'hui. Et par contre, ça marche pas du premier coup. Tu as besoin de plusieurs essais et autres. Donc, le coût global serait de l'ordre de 2 millions de dollars. Bon, après, tant que personne l'a fait, c'est difficile de savoir si c'est vrai ou pas. Parce que si t'as un coût de 2 millions de dollars, mais que tu dois avoir un espace de stockage infini pour que l'attaque fonctionne, c'est des trucs de mathématiciens, effectivement, l'attaque est pas réalisable en pratique, quoi.
Bon, on verra la Black Hat de l'année prochaine s'il y a un coup d'éclat sur le sujet.
On verra. Avec un ordinateur quantique.
Tout à fait.
Ah ouais, avec les ordinateurs quantiques, c'est fini, tout est fini. La crypto est finie.
Vlad, c'est l'heure de la minute fail.
Eh oui, tout à fait.
Alors, est-ce que tu peux rappeler le principe de la minute fail?
Alors, le principe est donc le principe de la minute fail, c'est de présenter un incident passé de sécurité en prenant un peu de recul avec humour, mais c'est surtout pas d'accabler les gens. Donc, j'essaie de ne citer aucun nom et de modifier certains éléments.
Non, c'est simplement anonymisé pour que seuls les concernés se reconnaissent.
Voilà, tout à fait. Et encore.
C'est du pseudonyme.
C'est ça. Il y a quelques temps, on était mandaté par un gros client pour réaliser un audit de type test d'intrusion en mode boîte noire Red Team depuis l'extérieur et ensuite boîte blanche. Et une des premières phases classiques, c'était de réaliser un scan depuis l'extérieur.
Alors Vlad, je te coupe. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu black box ou white box?
Alors l'audit black box, c'est tu n'as quasiment aucune information sur la cible, si ce n'est un nom de domaine, une adresse IP. Et white box, donc boîte blanche, c'est là tu as quasiment toutes les informations, c'est-à-dire que tu peux aller jusqu'à avoir la documentation d'architecture, des comptes, etc. Donc en fait, boîte noire, tu te positionnes vraiment comme un attaquant, un criminel. Donc voilà, donc sur cet audit, en fait, une des premières phases, c'était donc le scan classique. Donc en fait, comme on a un département infogérance dans ma boîte, on est LIR, donc on a nos propres sous-réseaux d'adresses IP, donc on a réalisé les scans avec ces adresses IP-là. Donc un de mes petits auditeurs s'occupe du scan, trouve finalement pas grand-chose à part des services web et du mail ouvert sur Internet, donc du grand classique. Jusqu'ici, tout va bien. Donc je sais pas trop pourquoi, mais en fait, moi, le soir... un doute, j'en sais rien. Je préviens le client en disant que j'allais scanner avec depuis chez moi. Et donc, je réalise le scan depuis chez moi. Est-ce que je dois préciser...
Oh là là, mais avec une adresse IP qui n'était pas prévue dans le contrat...
Si, au contraire, je préviens le client. Je dis, voilà, je scanne depuis chez moi, pas de souci.
Mais c'est pas marqué dans le contrat initial et couvert par l'assurance. Ah, c'est pas bien ça, Vlad.
Donc, attends. Donc, il y a un truc à préciser, c'est que moi, je suis chez Orange. Et j'ai la fibre
la
Orange.
La convention d'audit.
Mais justement... Oh. Attends, j'ai un écrit du client qui validait, mais bon, c'est pas là, le problème n'est pas là. Donc ouais, moi j'ai la fibre Orange au passage qui est vraiment top, et par contre j'ai une adresse IP dynamique.
Non, ça c'est de la publicité. Bon, moi aussi j'ai la fibre. Hein.
Attends, j'ai 20 mégabits de upload, c'est quand même le bonheur, mais bon. Donc voilà, j'ai une adresse IP.
Ah, moi j'ai beaucoup plus avec ma fibre.
Bon allez, donc j'ai une adresse IP dynamique. Donc voilà, bon. Donc je réalise le scan et en plus de ce que trouve mon éditeur, moi je trouve un port SSH ouvert. Donc au début, je pense que c'est une erreur, que c'est le soir, je suis fatigué, mon chat a marché sur le clavier, enfin je sais pas trop. Et je reteste et effectivement, je confirme que le SSH est ouvert. Donc là, le client, je le connaissais, donc je le préviens que je vais essayer un petit peu plus. Donc là, je tente au hasard 2-3, enfin j'essaie de me connecter, je tente 2-3 mots de passe pourris pour voir et j'arrive à m'authentifier en route. Et là, je tombe sur un Raspbian. C'est-à-dire la distribution Debian pour Raspberry Pi, Et alors là, je fais une grosse coupure et je raconte pas tout ce qui s'est passé, mais je raconte plutôt la fin. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un des consultants qui gérait les firewalls avait collé un Raspberry Pi au cul du firewall, qui était en frontal d'Internet, et y accédait depuis chez lui, sauf que lui, comme moi, il avait un accès Internet Orange, donc une adresse IP dynamique. Donc ce qu'il avait fait, c'est qu'il y filtrait par IP source, mais sur tous les ranges, enfin sur tous les blocs d'adresse IP d'Orange. Et donc mon adresse IP était dedans, et c'est comme ça que j'ai pu me connecter au Raspberry Pi.
Ah, donc en fait, la conclusion, c'est lors d'un test d'intrusion, il faut toujours tester depuis la fibre Orange.
Ouais, c'est ça. Donc gros fail parce que le Raspberry Pi permettait de contourner toutes les règles du firewall et permettait d'accéder quasiment à tous les sites d'entreprise depuis l'extérieur.
Non, mais c'est surtout qu'il faut arrêter de faire que des tests d'intrusion. Il faut faire des audits sur site et avec un audit, tu découvres la magouille physique.
D'où l'intérêt de la boîte blanche, tout à fait. Tout à fait, Hervé. Et voilà.
Bon, eh bien, on espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
Au revoir.
Salut. Au revoir.